Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Bernard Jordan a 89 ans. Il a longtemps été maire de la petite ville de Hove, au sud-est de l'Angleterre. Il vit maintenant dans une maison de retraite dont il est supposé ne pas sortir. Pourtant, jeudi 5 juin dernier, bravant les ordres des aides-soignantes, Bernard Jordan décide de fuguer. Dès le début de la soirée, le personnel de la maison de retraite s'aperçoit de sa disparition et donne l'alerte. La police du Sussex fouille toute la zone, vérifie auprès des hôpitaux, des compagnies de bus et de taxis, sans rien trouver. Entre-temps, le vieil homme a épinglé sur sa chemise toutes ses médailles et décorations militaires et a caché le tout sous un imperméable. Puis il est parti rejoindre en douce un bus de vétérans qui se rend à Ouistreham en Normandie. Cet ancien officier de la Royal Air Force veut assister aux commémorations du débarquement en Normandie. Inscrit trop tard, empêché, l'histoire ne dit pas exactement pourquoi on ne le laisse pas partir cette année-là, mais il se trouve que Bernard n'est pas autorisé à se rendre au centenaire, rendez-vous compte. Le soir même, la maison de retraite reçoit un appel d'un autre vétéran assurant que le pensionnaire se porte bien et qu'il rentrera en toute sécurité une fois les cérémonies terminées. Le lendemain encore, les tabloïds anglais titrent tous « La grande évasion ». Deux autres histoires d'évasion aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, une petite fugue et une grande cavale, c'est jusqu'à 14h. Et ce sont des récits conduits par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait peur, hein. Enfin, je pensais vraiment que... Ben, que j'allais plus le retrouver. C'était fini, je me suis dit, ça arrive aux autres, et ben aujourd'hui, c'est mon tour. Ouais, et j'ai eu peur, vraiment, ouais. Et puis, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu, une douleur que je connaissais pas. Mais, ça m'a paralysé le cœur, j'arrivais plus à respirer. Les gendarmes disaient, prenez bout de souffle, hein. Je lui ai dit, écoutez, j'arrive plus à respirer. Ça m'a jamais arrivé, hein, pourtant, là, je sais ce que c'est la douleur. Mais, la vraie douleur. Puis au bout de 2 heures, il me rappelle, il me disait, on l'a trouvé, mais à Lyon. Alors dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'ils essayent de me punir un petit peu, j'aurais dû servir un peu plus les enfants. J'ai pris dans ce sens-là. Puis finalement, non, c'était le chef de gare, il m'a dit, non, votre enfant, il est là, il est en train de faire un dessin, colorier un petit train, avec la casquette, le sifflet, une vraie casquette, hein, et un vrai sifflet. Hein. Non, pour ça, ils étaient cool. Hein.
Vous êtes allé le chercher à Lyon?
Oui, à la part Dieu, oui. À 11h du soir, exactement. J'ai réveillé un de mes frères, comme j'ai pas la voiture. Il m'a accompagné jusqu'à la Pardieu le chercher. Et lui, il est venu avec les chefs de gare, tout content, qui l'ont bien apprécié. Ouais, oui. Il leur a dit comment il s'appelait, son père comment il était. Moi, je pensais qu'ils auraient dû le gronder un peu, pour lui dire que c'est pas bien. Puis du coup, non, il était fier. Ah non, papa, hein, le train, c'est bien qu'on est seul, hein. Et du coup, j'ai pas osé. Enfin, sur l'instant, je l'ai pas puni parce que c'était à 11h du soir, je l'ai cherché. Alors, du coup, je l'ai mis au lit. Puis le lendemain, par contre, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était grave ce qu'il a fait, quoi. J'étais inquiet, ça m'a fait mal au cœur. Tu sais, enfin, de lui faire comprendre, de lui faire ressentir la douleur que j'ai eue.
Hans a 6 ans, il passe l'été avec ses grands-parents à la Tour du Pin dans l'Isère. Ce jour-là, en fin d'après-midi après le goûter, il descend avec sa grande sœur pour jouer au pied des immeubles. L'endroit est calme et ombragé, et il fait beau. Hans joue avec les enfants de son âge, mais l'un d'entre eux refuse tout d'un coup de lui prêter son petit train. Alors, contrarié, Hans décide de fausser compagnie à sa sœur. Il traverse la ville à pied, tout seul comme un grand, et part à la gare.
Je m'appelle Célia et je suis en CM1. J'ai 9 ans, je suis née à Bourgoin-Jallieu et mon frère est né à une ville qui se trouve à Clamart, ça se trouve à côté. À Clamart, ça se trouve à peu près, ouais, à Paris à peu près, donc tu vois. Et je sais que mon frère, il aime vachement bien les trains parce qu'un jour, il m'a dit qu'il voulait partir au parc de la Tête d'Or. Tout seul pour pour visiter.
Comment tu t'appelles?
Hank.
Pourquoi t'as voulu aller voir le train?
Je m'ennuyais chez mamie. Je voulais prendre le train et j'ai parti.
Mais dis-moi, tu connais le chemin d'ici pour aller à la gare?
Bah oui.
T'es allé tout seul?
Oui.
En marchant ou en courant?
En courant.
Est-ce que t'as regardé à gauche et à droite?
Non. Je voulais prendre le TGV. Parce que Valère rien en plus, je vais aller au parc. Au parc de la Tête d'Or.
T'es monté dans le train et qu'est-ce que tu as fait?
Le contrôleur, t'es gentil avec moi.
C'est toi qui le gardais?
Oui, on jouait dehors et puis je suis montée et j'ai dû l'oublier qu'il était avec moi. Parfois ça m'arrive, mais c'est pas toujours que ça arrive. Il s'est passé qu'il a dû disparaître, mais heureusement que personne ne l'a attrapé ou l'emmené parce que il a monté les escaliers, il a descendu avec l'ascenseur, il a pris la passerelle. Enfin, avant, il a dû entendre la destination et il a vu le premier train. Alors, il est monté dessus et il a fait en direction. Pour moi, j'étais vraiment triste. J'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. Pour moi, c'était vraiment un suspense. Puis mon frère, il est prématuré. Mais ça veut dire quoi, prématuré?
Il est né 2 mois avant les autres enfants. Le que ce soit 9, c'est 7 mois et demi.
Oui, il est né.
Alors il faut bien le booster, bien l'accompagner, le soutenir surtout. Ouais, il faut du temps pour ces petits-là. Hein. Tu sais, au début, on pense que c'est rien, mais finalement, ça demande beaucoup d'affection. Beaucoup d'énergie à donner, en fait, finalement. On ne s'attend pas à ça. Hein. On était naïfs.
Mais parfois, il me fait rigoler, mais parfois, il m'embête. Ça m'énerve quand il m'embête.
Est-ce que tu auras envie de recommencer à prendre le train?
Oui.
Là, on va partir. Et vient où, ce train? Il va devenir où?
Il va à Lyon.
À Lyon.
France Culture, les pieds sur terre. Où est-ce qu'on est ici, François?
On est à Avenue Montaigne. Donc au croisement d'Avenue Montaigne et François 1er. Et c'est là que je me suis fait arrêter le 27 janvier 2004. J'attendais un ami dans une cabine téléphonique. Et comme l'Avenue Montaigne est à sens unique, ça permettait d'avoir un visuel sur toute la rue. Et donc j'étais en cavale depuis 8 ans. Et donc j'ai repéré des agents de l'OCRB, donc c'est l'Office central du grand banditisme, qui observait mon ami.
Pourquoi ça se repère?
Ça se repère par la dégaine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais dans le 8e arrondissement, puisque là on est en face de maison de mode assez connue. Disons que l'OCRB, ils sont plutôt en survette avec des baskets ou jeans et blousons noirs. Les mecs ont des dégaines un petit peu de garde-corps face à une vitrine de magasin chic. c'est pas trop... Enfin voilà, ça se repère assez facilement. Donc c'était une manière de les démasquer, et ça a marché. Et moi j'étais caché dans une cabine téléphonique, et ils m'ont pas repéré immédiatement. Et donc j'ai essayé de m'éclipser en douce, mais j'étais repéré. Donc j'ai pris la poudre d'escampette et je me suis dirigé vers la rue François 1er, qui fait le coin avec la rue Bayard. Et j'ai réussi à me cacher dans une porte cochère, puisque en fait j'avais des clés qui permettent de passer les portes cochères, comme les clés des PTT en fait. Hein. Et donc je suis resté là pendant 20 minutes en me disant que j'étais paranoïaque, que c'était pas... finalement après 8 ans, je me disais c'est pas possible. Enfin, je comprenais pas qu'on m'arrête pas. Et en fait ils m'ont perdu. Et à partir du moment où je sors après une demi-heure de ma cache, je retombe sur une autre patrouille. Et là, il n'y a pas de doute possible. Je sais que dans le jargon, on dit que je suis détronché. C'est-à-dire qu'ils m'ont reconnu. Et la course-poursuite s'accélère. Donc là, on est occupé de marcher vers la rue Bayard. Et puis, arrivé à la rue Bayard, ils repèrent ma trace. Je suis à pied. Et je me fonds dans la foule devant chez RTL. Je pense qu'il y avait les grosses têtes, l'enregistrement des grosses têtes ce jour-là. Et je me mets dans la file, donc je me planque, et forcément les gens avancent, mais j'ai pas d'invitation. L'agent de sécurité qui est à l'entrée me refuse l'entrée, et je me retrouve quasiment tout seul sur le trottoir. Et donc je file dans le bar en face. C'est ma seule possibilité d'échapper à mes poursuivants. Alors je ne suis pas armé, je suis totalement pris au dépourvu. Et donc je me retrouve dans ce bar et je traverse le restaurant qui est fermé à cette heure-là, donc on l'a en fin d'après-midi. Et j'ouvre la porte qui donne sur la cuisine, l'arrière-cour, pour donner l'impression que j'ai fouillé par l'arrière. Et je me planque dans une petite réserve dans laquelle je trouve un escalier. Et donc je monte dans un petit escalier de secours et j'arrive au dernier étage où il y a quatre portes. Et j'entends du bruit à l'extérieur. Donc je frappe. Et là, il y a une dame qui vient ouvrir. Je dis, je suis de la police, il y a un dangereux malfaiteur dans le quartier. Je suis là pour vous protéger. Donc, elle m'accueille dans son appartement. Et on ferme la porte et elle me fait un thé. Le temps passe. Il y a les forces de l'ordre, évidemment, qui viennent dans tout le quartier. Moi, je vais à la fenêtre, je vois, évidemment, l'homme du ménage, le GIGN qui se pointe. Donc, je me dis, ça, c'est mal parti. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc, je mets la seule planque possible, c'est rester là et faire le mort.
Il est où l'appartement en question ?
Alors c'est le dernier étage, juste en face d'RTL, et donc les fenêtres donnent sur la chaîne. Et donc au bout d'un moment, elle voit une ombre, elle voit un policier qui manifestement me cherche à l'arrière. Il la braque avec son arme, donc elle hurle. Moi je me retourne, mais je suis à 15 mètres d'elle, et elle file vers la porte de peur. Elle ouvre la porte, elle descend les escaliers, elle arrive en bas. Et là j'entends un remue-ménage et on lui dit... bougez pas. Puis elle dit, mais je suis avec votre collègue en haut. Et donc là, évidemment, y a un long silence. Et on a le cœur qui bat très vite. J'ai une foule de choses qui se passent. Je me dis, il y a 8 ans, je pense à mon petit garçon qui avait 6 ans à l'époque, avec qui je vivais quasiment tout le temps. Donc il y a vraiment ces images qui passent. Et je cherche encore, comme un animal, un échappatoire. Et je veux sauter, mais il y a 15 mètres pour accéder à l'autre, à l'arrière du bâtiment. Donc je me dis, je vais me fracasser, c'est quand même assez haut. Et puis au bout d'un moment, j'entends du bruit dans l'escalier, mais je me dis, ça va péter à l'aile, j'ai pas d'arme. Et à un moment donné, j'entends quelqu'un qui crie, jette ton arme, jette ta grenade. Et je comprends qu'ils ont cru que j'étais armé, que j'avais une grenade avenue Montaigne. C'était la raison pour laquelle ils m'ont pas arrêté. Il faut savoir aussi que dans le 8e arrondissement, ils peuvent pas tirer. Il y a beaucoup d'ambassades, c'est un quartier sensible, donc ils voulaient me rabattre ailleurs. Et donc, mais je n'ai pas d'arme, donc je me dis, je vais me faire allumer. Donc, et là, j'ai une idée, j'ouvre la fenêtre avec un manche à brosse pour ne pas me faire allumer par la fenêtre. Il faut savoir que toute la rue est bloquée, il y a des tireurs d'élite, etc. Et c'est un journaliste d'RTL qui me fait signe et je lui dis, j'ai pas d'arme. Et lui fait le lien avec le bas et leur dit, voilà, je suis en visuel, il n'a pas d'arme. Et donc ça dure encore un long moment. Puis après de longues palabres, il y a finalement des agents du GIGN qui sont venus et qui m'ont interpellé. Alors, je me souviens de rien puisque je me suis réveillé sur les Champs-Élysées, puisque j'ai reçu sans doute quelques coups sur la tête. Et puis voilà, donc le soir même, je dormais ce qu'on appelle la souricière. Et puis je me suis trouvé à la prison de la santé. Voilà. Alors en fait, donc moi je suis belge et j'étais en cavale depuis 96 pour plusieurs séries d'attaques de fourgons. Et la chose la plus grave, j'avais eu une fusillade avec la police judiciaire belge et lors de cette fusillade, j'ai blessé un policier d'une balle dans la jambe. Et donc je suis parti en cavale d'abord en Amérique du Sud, avant de revenir sur la Corse, l'Espagne, le Maroc, un petit peu les pays de l'Est. Et finalement, je suis revenu en France, puisque ma couverture, j'étais scénariste dans le cinéma. Donc voilà, donc je suis né dans une famille plutôt artiste. J'ai un père qui est chanteur d'opéra, une mère qui est prof. Une famille nombreuse, et des parents un petit peu anarchistes, trop écolos. Donc j'ai quand même fait des études artistiques, puisque je me destinais à être... à la base, je voulais être trompettiste. Voilà, j'ai fait pendant pas mal d'années de la musique. En même parallèlement à ça, je faisais les arts graphiques. Et puis, j'ai eu une proposition de travailler dans la sécurité. Et ça m'a donné l'envie, ou l'idée plutôt, de dire pourquoi pas. Et on m'a proposé de faire un stage de protection rapprochée. Et je me suis essayé au tir. Et il se fait que j'étais doué, puisque j'ai gagné des concours. Et donc, suite à ce parcours-là, j'ai été reçu et promu, et on m'a proposé de travailler dans la sécurité rapprochée. Alors, je trouvais ça très, très intéressant, puisqu'on voyage, on vit dans un milieu assez luxueux, des beaux hôtels, on voyage en jet privé. Donc, à 22 ans, 21 ans exactement, bah, c'est un peu le rêve. Puis un jour, j'ai eu la chance de travailler pour un industriel qui était le manager de l'année. Et donc en fait, j'ai assisté à ce que je considérais comme une faillite frauduleuse. Mon patron s'est retrouvé en prison et moi, j'ai perdu ma place. Donc je retournais aux études quand on a goûté à la vie professionnelle, bah, c'est pas évident. Et j'ai fomenté l'idée de me faire engager comme transporteur. Donc ce que j'ai pu faire, j'ai passé les concours, j'étais admis. Et au bout de 6 mois, je disparaissais avec le contenu d'un fourgon.
Il y avait combien d'argent ?
Il y a pas mal d'argent, l'équivalent de 2 500 000 euros. Et donc, en arrivant là, en prison, j'ai pris conscience quand même de ce que c'était comme univers. J'avais jamais eu les pieds là-dedans. Donc, tout de suite, il y a un sentiment de... On a envie de tout arrêter, de revenir en arrière. Et on dit, ben, finalement, c'est bon, les gars, j'ai compris. Je vais me ranger. Je ferai ce que vous voulez. Mais ça se passe pas comme ça. Et on vous laisse croupir pendant 15 jours dans un trou. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, ben, la porte s'ouvre et puis vous allez à la promenade et puis on rencontre des gars qui vous disent « Ah bon, c'est toi ?» Et puis ils sont intéressés forcément puisque je connaissais les tournées, je connaissais pas mal de choses, j'étais expert en armes. Et donc l'idée, c'était pas de me réinsérer, c'était justement de faire mieux en sortant. J'étais libéré 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. Donc au lieu de me réinsérer, au lieu de... Bah là, je me mets à 100% en mode gangster. Et je vois les fourgons comme des transports de... Enfin, comme des tirelires ambulantes. On les appelle d'ailleurs dans le jargon, on appelle ça des cochons ou des haloufs en arabe. Puisque bah, ça symbolise le petit cochon. Et il suffit d'avoir un bon marteau pour taper dessus et ouvrir ce qu'il y a dedans. Après, il y a une part de rêve, c'est un petit peu comme un loto. Si on peut attraper un bon fourgon, bah, ça permet de se réaliser dans nos rêves. Alors le rêve personnel, c'était faire la musique, écrire, faire l'artistique et être mon propre mécène. Ça, c'est dans l'absolu. Et prendre ce qu'on m'avait pas donné, quoi. La chance, entre guillemets, je suis pas né dans une famille fortunée, éduqué mais pas fortuné. Et je me disais, ben voilà, c'est le moyen d'être libre, en tout cas, et de faire ce que j'avais envie. Et puis, ben, on rentre dans l'espèce de cercle vicieux, c'est qu'on en fait un, on dépense très vite de l'argent, puisqu'on vit sur un mode... rockstar. Donc on se dit bah super, on fait la fête, on part tout de suite à l'étranger, on passe des nuits dans des hôtels majestueux, parce qu'on dans le jargon on fait péter la thune, quoi. Voilà. Et puis on recommence. Le problème, c'est que le deuxième fourgon, bah, ça se passe pas aussi bien. Et le convoyeur, ce jour-là, il a envie de jouer au héros, donc il tire. Donc on manque de se faire allumer, on est obligé de riposter. Heureusement, on ne blesse personne, mais on se dit quand même que là, on est passé à deux doigts, donc il vaut mieux peaufiner les choses. Et donc, au lieu d'arrêter, ben,
on perfectionne.
On perfectionne, voilà.
C'est un défi personnel, du coup, on perd pied avec la réalité.
Oui, on perd pied avec la réalité, et puis ça devient presque un métier. Ouais, ça devient une... C'est une... Et puis c'est assez facile. Vu que, enfin, c'est quelque chose de difficile parce que les gens ne se rendent pas compte. Souvent, on me dit, bah, finalement, c'était facile. Mais ce n'est pas facile. Si on n'a pas... on doit spécialiser. C'est une... Il faut de la méthodologie. Il faut une certaine... il faut être rigoureux. Ça, en fait, c'est exactement le même travail que de monter une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si j'avais mis la même énergie dans une entreprise, j'aurais pu être peut-être... beaucoup plus riche et j'aurais fondé quelque chose de durable.
Et l'argent, vous le placiez à chaque fois après ?
Alors moi, j'avais une technique assez... Je faisais 3/3. Je faisais 1/3 pour les frais en cas où ça se passe mal, donc avocat, prison. 1/3 à dépenser tout de suite et 1/4 qu'on peut placer et investir.
Elle a duré combien de temps, cette vie ?
Alors j'ai commencé en 93... jusqu'en 2004.
Et pour combien d'années de prison, finalement ?
Pour 10 ans de prison. Donc finalement, un an par année de banditisme.
Vous regrettez ou pas ?
Je regrette certaines choses. D'avoir fait usage de mon arme, d'avoir blessé un policier. Je ne suis vraiment pas fier. Après, je ne regrette pas cette vie. J'assume. J'ai le sentiment qu'elle m'a permis d'être autre chose, d'avoir un cheminement personnel, et je pense que je devais passer par là. Après, moi, je crois au karma, je crois au destin, et je me dis que voilà, la vie a fait que vraiment, j'aurais jamais pu penser que je me retrouverais un jour dans le grand banditisme. Et puis après, il y a les années de prison et l'envie de changer aussi de vie, quoi, puisque c'est pas une vie en soi, c'est une folie, c'est une fuite en avant. Et puis aussi une prise de conscience que bah, la société, bah, c'est vous, c'est moi. Que s'attaquer à la société avec un flingue, c'est pas la meilleure des solutions. Et qu'on va faire beaucoup plus avec une plume ou avec un reportage radio parfois. Donc moi, j'ai vraiment eu envie de changer. Quand je suis arrivé à la prison de la santé, après mon arrestation ici, rue Bayard, j'ai pris vraiment le temps de réfléchir, de me dire, moi voilà, qu'est-ce que tu fais ? J'avais 3 choix, c'était un, de m'évader. Me suicider ou accepter, puisque bah, j'avais une peine en Belgique de 28 ans plus cumulable à une autre peine pour avoir blessé un policier, donc je me voyais au moins 20 ans derrière les barreaux. J'avais un petit garçon qui avait 5 ans et demi, une compagne, voilà, une vie que j'avais envie de poursuivre. Voilà, j'étais à un croisement de route, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il est possible de m'en sortir ? Et c'est en discutant avec plusieurs personnes que je suis arrivé au... Il y avait une possibilité. Il y a une possibilité, mais le...
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 34 ans. Et les peines étaient immenses, mais en même temps, je pouvais faire appel. Et je me suis dit, si je me change personnellement, ça va se ressentir. Et le seul moyen, c'était l'étude. Et ce qui s'est passé en fait à la prison de la santé, ce qui m'a vraiment fait changer aussi, c'est qu'on est venu me chercher dans ma cellule en me proposant de faire une licence en lettres à la Sorbonne, qui permet de faire des cours universitaires tout en étant détenu. Et ça m'a ouvert l'esprit, des perspectives, l'envie de revenir dans une vie normale, d'apprendre et de me construire et de ne pas perdre mon temps. Parce que la prison, je voulais l'accepter à une condition de ne pas perdre mon temps. Et j'étais convaincu que si je travaillais pour obtenir ce diplôme avec des difficultés, puisque ce n'était pas évident d'étudier dans une cellule, que mon mérite serait récompensé. C'est-à-dire qu'on les gens pouvaient percevoir le travail, donc l'introspection, le travail personnel que j'avais sur moi pour changer, pour être quelqu'un d'autre. Parce que j'avais vraiment envie de radicalement changer de vie. Il faut savoir aussi qu'avant de me faire arrêter ici, donc j'ai braqué des fourgons jusqu'en 2002-2003, et j'ai commencé à décrocher quand j'ai tiré sur le policier. Donc c'était le moment le plus compliqué de ma vie à gérer. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, t'es passé un cap, tu vas tuer. La prochaine fois, tu tues. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas armé à Paris. Donc, je suis parti, je l'avais dit, en Amérique du Sud. Et puis, petit à petit, ben, mon petit garçon me manquait. Donc, l'Europe me manquait. Après quelques années passées très loin, je suis revenu petit à petit en Europe. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai monté une société de... J'ai dit que j'étais scénariste et j'ai monté une société d'édition. Et je disais que je faisais de la bande dessinée.
Pour de vrai ?
Ouais, pour de vrai. Donc je publiais des bandes dessinées. Et
vous dessiniez ?
Alors que je dessinais, que j'écrivais. Et j'ai publié des autres auteurs. Donc j'ai fait aussi ce qu'on appelle du para-BD. C'est-à-dire je revendais des affiches et des dessins originaux d'artistes. Et je me suis... Je suis rentré dans le milieu artistique de la bande dessinée et j'en vivais. Donc un an avant de me faire arrêter, j'étais vraiment déjà réinséré. Et ma fausse vie était devenue ma vraie vie. Finalement, l'arrestation a été un soulagement aussi, puisque c'était une manière de dire « Tiens, je vais essayer de repartir à zéro. » Et ça a payé.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Une petite fugue et une grande cavale, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Perret Legras avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à François Toukens. Sachez que ce braqueur a créé une association qui s'appelle Crise Libre et dont vous pourrez retrouver les coordonnées sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Merci à lui, à Thomas Lagnier et à Alessandra D'Angelo, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Céline Autin, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Les Pieds sur Terre France Culture, et également un compte Twitter qui vous attend tous deux nombreux.